Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Grace Amzati.
La Cour constitutionnelle demande au gouvernement Sama de démissionner dans un arrêt rendu hier jeudi en interprétation des dispositions constitutionnelles sur l'incompatibilité des fonctions politiques avec le mandat électif. La Cour juge non fondée la requête introduite par le chef du gouvernement concernant le cumul des fonctions. À l'occasion de la clôture mercredi dernier de la 30e édition du forum minier d'Indaba en Afrique du Sud, le premier ministre congolais et le ministre des Mines louent la performance des entreprises minières évoluant au pays, mais se disent également conscients des défis encore à relever dans ce secteur pour booster l'économie congolaise. Notre invité est le responsable de la commission des relations stratégiques du Festival Amani. Vianney Bissimwa nous parle de la décision du report de la 10e édition de ces rendez-vous culturels au mois de juin prochain, à cause notamment de la situation sécuritaire autour de la ville de Goma au nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour. Le premier ministre et les ministres membres du gouvernement, les gouverneurs des provinces et membres des cabinets politiques élus le 20 décembre 2023 sont appelés à démissionner de leurs fonctions politiques, sauf s'ils renonçaient à leur mandat électif. Dans un autre arrêt rendu hier jeudi par la Cour constitutionnelle en interprétation des dispositions constitutionnelles sur l'incompatibilité des fonctions politiques avec le mandat électif, la Cour juge non fondée la requête introduite par le chef du gouvernement sur l'interprétation de la Constitution et de la loi électorale concernant l'incompatibilité des fonctions. Notons que cette décision de la Cour constitutionnelle a malencontreusement été attribuée par les médias dernièrement au Conseil d'État. À ce sujet justement, les fidèles auditeurs de Radio Okapi auront remarqué que cette décision de la Cour constitutionnelle vient confirmer ce que nous disions dans nos éditions d'hier jeudi matin. Dans un entretien avec votre radio, en effet, le constitutionnaliste Jacques Joly affirmait que tout le gouvernement Sama Lukonde est réputé démissionnaire a daté du 20 janvier dernier avec la prestation de serment du président de la République pour son second mandat. Selon lui, le débat autour de l'incompatibilité des fonctions évoquées par l'article 108 de la Constitution ne devrait pas en principe avoir lieu dans le contexte actuel. Suivez à nouveau ce reportage de Michel Kifindangoy.
À en croire le professeur Jacques Joly, la polémique autour du cumul des fonctions par des membres du gouvernement élus députés nationaux ne devrait pas se poser si le premier ministre avait déjà déposé la démission de son gouvernement par élégance politique.
Les ministres savent qu'ils sont tentés de gérer l'affaire courante. Il aurait été beaucoup plus formel que le premier ministre, les lendemains de la prestation de serment, déposât la démission de tous les gouvernements. Il n'y aurait pas toute cette ambiguïté
privée. Privé d'un gouvernement muni de plein pouvoir depuis plusieurs mois, le chef de l'État n'essaie de répondre aux besoins urgents de la population, déplore le constitutionnaliste Jacques Joly.
Il faut regretter cette situation. Vous vous rendrez compte que le gouvernement devient pratiquement inapte à travailler depuis le mois d'octobre. Dans cette période où nous avons des menaces, des attaques graves, nous nous retrouvons avec des institutions hémiplégiques qui ne peuvent pas répondre aux urgences de la survie de la nation.
Au regard de cette expérience, le député national Jacques Joly réaffirme la nécessité d'une révision constitutionnelle afin de permettre au président de la République de se doter d'un gouvernement juste après sa prestation de serment.
Michel Kifindangoy sur Radio Okapi. Et puis, contentieux relatif aux résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Des 63 dossiers déposés devant la Cour constitutionnelle par les candidats invalidés par la CENI, aucun recours n'a abouti. 35 ont été déclarés irrécevables. 24 recevables mais non fondés, alors que 4 ont fait objet de désistements. Selon Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, la CENI n'est pas compétente d'invalider et que jamais elle ne puisse refaire cela. En effet, à la suite des enquêtes menées par la CENI, les suffrages de plus de 80 candidats députés nationaux ont été annulés. La centrale électorale les accuse notamment d'avoir commis des actes de fraude, de vandalisme des matériels électoraux et de détention des dispositifs électroniques de vote. Parmi les candidats concernés dans cette affaire se trouvent entre autres Jean-Tiningo Bilambaka, Evariste Bouchab, Charles Mutamuntulanga, Colette Chomba, Pembe Luemba Tatiana, Singi Pululu, Louis Victorine, Mabaya Gizi, Nana Manuanina et autres. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre et la ministre des Mines saluent la performance des entreprises minières évoluant au pays. Mais ils se disent également conscients des défis qui restent à relever dans ce secteur, véritable fer de lance de l'économie congolaise. Ils se sont exprimés ainsi lors d'un petit déjeuner thématique organisé par le ministère des Mines. C'était mercredi à Cape Town, en Afrique du Sud, lors de la clôture de la 30e édition du Forum minier. Étaient présents à ces rendez-vous les patrons des plus grandes entreprises minières et des institutions bancaires du pays, ainsi que des entrepreneurs évoluant dans les mines. Cynthia Bachiz Nabizana.
Je m'en voudrais de ne pas reconnaître le progrès considérable observé ces dernières années.
C'est une ministre des Mines satisfaite du bilan socio-économique de certains miniers en 2023, Antoinette Nsamba Kalambay.
La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières a été libérée par 42 entreprises minières avec un montant de 145 287 366 dollars américains. Des écoles, des hôpitaux et morgues, des centres photovoltaïques sont construits dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Ouélé. Des écoles supérieures de métiers de mines sont créées et en voie de construction.
Pour autant, des grands défis demeurent pour une exploitation minière optimale, tributaire d'une justice sociale. Louis Watum, président de la Chambre des Mines de la Fédération des entreprises du Congo.
Bien sûr, tout ça ne se fera jamais avec le déficit énergétique que nous connaissons. Et puis enfin, l'exploration Greenfield. Il n'est pas normal que l'Afrique détient plus de 30% des réserves mondiales en ressources minérales. Et on n'arrive qu'à attirer moins de 13% en fait du budget global d'exploration dans le monde, qui est aux environs de 13 milliards de dollars.
Toutes les parties prenantes se sont mises d'accord sur la nécessité de diversifier l'économie congolaise assez vulnérable du fait qu'elle repose essentiellement sur le secteur extractif.
Par ailleurs, plusieurs projets n'ont pas été réalisés l'année passée à Beni, au Nord Kivu. En cause, le faible taux de recouvrement des impôts auprès des assujettis qui a fait conditionner leur paiement au retour de la paix dans la région de Beni en général et dans la commune de Moulekere en particulier. Constat fait hier au cours d'un échange entre le bourgmestre de cette commune et les différentes couches de sa juridiction. C'était lors de la présentation du bilan annuel des réalisations de l'année passée au sein de cette commune. Guylaine Kassa, ça nous fait le point.
Au cours de cet échange, le commissaire supérieur de Dieudonné Ngongo-Mayanga a passé en revue les principales actions réalisées au cours de l'année 2023. Réalisation qualifiée d'insatisfaisante, le bourgmestre met en cause le manque de civisme de certains citoyens qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs fiscaux en conditionnant le paiement des impôts par le retour de la paix à Beni, d'où son appel au patriotisme.
Nous avons connu certaines difficultés qui étaient dues au fait de l'incivisme fiscal. Et ça a impacté même sur notre budget de l'année 2023. Il faut sensibiliser la population qu'elle paye l'impôt.
Les participants, quant à eux, se sont dissatisfaits de l'approche participative de la gestion de la commune à travers pareilles assises. Ils affirment que cela leur permet de comprendre le fonctionnement de leur entité, comme l'explique Jonathan Palawa, vice-président de la cellule de développement du quartier Massiani.
Selon la méthodologie actuelle, la méthodologie participative, sans changer notre système de comprendre et nos populations, nous consommons les choses que nous-mêmes nous avons planifiées.
Lors de cet échange, le bourgmestre a insisté sur l'interdiction des groupes de vigilance dans sa commune car selon lui, certains bandits s'y cachent sous prétexte de répondre à l'appel du chef de l'État. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Restons dans le Nord Kivu où les activités socio-économiques sont restées paralysées hier dans la matinée à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, ainsi qu'au poste frontalier de Kassindi-Loubiria. Cette situation est consécutive au mot d'ordre de la société civile de ces deux entités qui appellent à observer des journées villes mortes pour dénoncer l'insécurité. N'est-ce pas, André Kitenge?
À Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, la plupart des activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce jeudi matin. Quelques maisons de commerce sont restées fermées. Selon les organisateurs, cet appel à la ville morte a été décrété pour compatir avec les familles des victimes des rebelles des ADF. Une décision prise par les membres de la société civile des noyaux d'Oicha, Mangina et du secteur de Benimbao pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région. Dans leur rapport du dimanche 4 février, la société civile du territoire de Beni dresse un bilan macabre avec plus de 80 personnes tuées au cours de 23 attaques attribuées aux rebelles des ADF, hormis des personnes portées disparues. Pendant ce temps, au poste frontalier de Kassindi-Loubiria, les portes de boutiques et magasins sont restées fermées. Le transport en commun et les activités douanières ont tournées également au ralenti. La société civile exige la relève des policiers et militaires qui sont sur place depuis plusieurs années et les accuse d'être à la base de l'insécurité dans la région au lendemain de l'assassinat par balle d'un opérateur économique de Kassindi à son domicile. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, comment renforcer l'appareil sécuritaire local dans la région de Rwindi, Kibirizi, pour qu'il n'y ait pas de vide après la fermeture de la base des casques bleus de la MONUSCO? Cette question était au centre du débat lors des échanges mardi et mercredi entre les représentants de la communauté, les autorités locales dans cette partie de Rutshuru et une équipe conjointe de la MONUSCO pour la population. Pendant que la MONUSCO s'apprête à fermer ses bases à Rwindi, Nyanzale et Kanyabayonga, la région connaît encore des défis sécuritaires, d'où l'impérieuse nécessité de renforcer les mécanismes locaux de sécurité existants. Si Famagourou était de la partie, elle nous en parle.
La population de Kibirizi, Vichumbi et d'autres villages du groupement Mutanda ont suggéré que le mécanisme de protection soit autonomisé en termes de moyens pour ne plus dépendre de la MONUSCO une fois qu'elle sera partie. C'est notamment les réseaux d'alerte précoce, le plan local et les comités locaux de protection. Ce sont ces trois outils qui permettent aux communautés locales, en collaboration avec les autorités, d'identifier les menaces sécuritaires et de trouver des réponses. Kabuo Clarisse, représentante des femmes de Kibirizi, voudrait que la MONUSCO puisse laisser une empreinte.
Nous sommes entourés par des groupes armés. Que la MONUSCO nous aide à sensibiliser notre gouvernement pour que les travaux déjà faits par la MONUSCO soient pérennisés.
Signalons en outre qu'une grande force militaire est présente sur l'axe Rwindi-Kanyabayonga pour sécuriser cette partie des Rutshuru qui est sous contrôle de l'armée gouvernementale. À côté d'eux, on note également la présence d'une base des casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema, où plus de 500 maisons d'habitation, des édifices publics, dont des écoles, églises et une mosquée, sont détruits par les eaux des pluies qui s'abattent ces derniers temps à Lubelenge, entité située à 19 km de la ville de Kindu, dans les territoires de Kailo. Selon le ministre provincial de la Santé, cette calamité naturelle expose la vie des habitants du village Lubenge. Docteur Kibungi Mutanga Junior, qui revient de ces milieux, lance un appel à l'aide en leur faveur. Il est joint par Florence Kizalunga.
Effectivement, je viens d'une descente dans l'entité de Lubelenge. Je viens de constater plusieurs dégâts provoqués par l'eau qui ruisselle du sol parce que les dernières pluies abattues sur cette entité, l'eau de ces pluies n'a pas pu se dégager vers les rivières faute d'une bonne canalisation. Nous venons de constater que au moins 4 écoles endommagées et les élèves sont obligés de se déplacer dans des endroits de fortune pour arrive à étudier. Comme vous savez, nous sommes dans des périodes d'examen au niveau des humanités. En tout cas, si on n'intervient pas, ces élèves-là vont passer leurs examens dans de mauvaises conditions. Également, au moins 500 maisons détruites par les dégâts de l'eau. Il y a aussi 3 églises ainsi que la mosquée centrale de Lubelenge qui sont touchées, raison pour laquelle nous demandons vraiment l'intervention des humanitaires, du gouvernement provincial ainsi que central pour venir en aide à cette population qui est maîtrisé par les dégâts causés par l'eau qui ruisselle du sol.
Et au Kassai Oriental Pandastan, bonne nouvelle pour les femmes enceintes. Le programme maternité gratuite a en effet été lancé hier en Mbujimayi. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du gouvernement provincial par les gouverneurs des provinces intérimaires en présence des autorités. Les femmes enceintes et celles qui allaitent saluent cette initiative. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours de cette cérémonie, Dr Bonheur Chitekou, chef de division provinciale de la santé au Kassai Oriental, a salué cette initiative présidentielle qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et prend en charge gratuitement les accouchements et les soins des nouveaux-nés.
Cette initiative présidentielle lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, étant donné qu'il y avait une barrière financière que certaines femmes enceintes ne pouvaient franchir.
D'après la gouverneure de province intérimaire, cette maternité gratuite comprend
les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations pré- et post-natales, les services de planification familiale et l'accès aux médicaments essentiels.
Une femme enceinte remercie le chef de l'État pour cette initiative.
remercier notre président parce qu'il a accordé la maternité gratuite. Vraiment, ça va quand même nous permettre à bien mettre au monde sans problème.
La gouverneure de province intérimaire a indiqué que ce programme va s'étendre progressivement dans d'autres structures publiques de la province. Esther Ndalafina Boujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prononcé hier son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni au Cap. Pour les chefs de l'État, cette plateforme était l'occasion de revenir sur les actions menées par l'ANC à la fois sous sa présidence, mais aussi depuis l'arrivée du parti au pouvoir en 1994. Et parmi les dossiers qui n'ont pas été réglés sous sa présidence se trouve la question des délestages, puisque l'entreprise publique Eskom est régulièrement incapable de répondre à la demande. Sur ces points, Cyril Ramaphosa a tenu à rassurer ses élèves. Je les cite, nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des coupures des courants est enfin à portée de main. Fin de citation.
L'invité.
Initialement prévue du 16 au 18 février 2024 à Goma, la 10e édition du Festival Amani est reportée au mois de juin prochain. Un report qui s'explique par la situation sécuritaire autour de Goma. Selon le responsable de la Commission des relations stratégiques du Festival Amani, la décision du report n'a pas été facile à prendre. Vianney Bissimwa s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Vianney Bissimwa, bonjour.
Bonjour.
Vous gérez la Commission des relations stratégiques du Festival Amani. Oui. Mercredi, vous avez pris, selon vos mots, une lourde décision de reporter les festivals. En quoi c'est lourd, ce report du Festival Amani?
Alors, c'est une lourde décision pour trois ou quatre raisons. Premièrement, parce que nous étions à 10 jours du Festival Amani et les gens attendaient. On avait déjà annoncé des têtes d'affiche comme Tiken Jafakoli, Fali Poupa, des artistes locaux. On avait déjà déclenché une certaine logistique pour organiser le festival. Et nous nous étions déjà mobilisés, y compris des bénévoles. Certaines personnes avaient déjà voyagé pour être sur place. Et la machine était lancée. Une fois la machine est lancée, les commissions sont en place, les gens fonctionnent. Et surtout l'attente. Les gens attendaient cette nouvelle édition. C'est la 10e, c'est le 10e anniversaire. Et donc il y avait un caractère émotionnel intéressant lié à cette édition. Nous le faisons aussi effectivement pour faire du plaidoyer en faveur de la paix. Et au regard de ce que vit la région, c'est l'occasion pour pouvoir le faire. Donc toutes ces raisons-là font en sorte que décider de reporter cela était difficile. Et on a tergiversé, on a consulté, contacté beaucoup de gens, on a eu plusieurs réunions, des réunions parfois très très tardives. Et donc c'était assez difficile pour finalement prendre cette décision et comment les gens vont réagir, comment nos partenaires, comment les artistes vont réagir et surtout finalement comment continuer à influencer positivement le contexte pour que finalement cette situation cesse. Rendait la décision assez difficile.
Dans les contextes actuels, justement, vous venez de le dire, les festivals, c'était un moment de plaidoyer. Parmi les messages que vous partagez, là où les armes divisent, que la culture rassemble. Aujourd'hui, reportant les festivals, c'est aussi un message d'appel à la paix.
Oui, c'est aussi un message pour pouvoir dire. Aussi longtemps que la violence continue, aussi longtemps que cette partie est de la RDC continue à souffrir, les gens ont du mal à se rassembler, à être ensemble, à se retrouver. Or, nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir réfléchir sur comment renforcer la cohésion sociale, comment renforcer l'entrepreneuriat. Et donc, annuler, c'est aussi pour dire, si la situation continue à se détériorer, malheureusement, c'est assez compliqué. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un minimum de bonnes conditions qui permettent à ce qu'on tienne le festival. Nous reviendrons pour juin, donc ce n'est que partie remise. Mais c'est vrai que c'est triste de pouvoir annuler un festival qui rassemble deux gens, qui présente autrement l'image de la région, effectivement à cause d'un contexte assez difficile et du focus. Maintenant, tout le focus, c'est réponse sécuritaire, réponse besoin humanitaire. Et on espère que finalement, ça va être une opportunité pour dire aux gens, il est temps finalement que ça cesse.
Les implications pour les partenaires qui étaient déjà impliqués, les partenaires locaux par exemple, qui avaient déjà des stands pour les festivals?
Alors on a une commission qui est chargée de gérer cette question-là et on a deux options par exemple pour les stands. La première option c'est de pouvoir rembourser les gens qui ont payé pour réserver leur location et leur espace pour le stand. Et la deuxième option c'est de pouvoir le reprogrammer pour juin. Et donc on a notre chargé de stand qui est en collaboration avec eux. Mais les stands n'est qu'un exemple. C'est la même chose pour les artistes, c'est la même chose pour la logistique, les matériels, les billets d'avion. Donc nous faisons deux approches, soit nous remboursons ou nous nous faisons rembourser, ou bien soit, selon les négociations, nous reprogrammons finalement pour le mois de juin. La plupart des gens, c'est des gens avec qui nous traitons, ça fait des années. D'autres encore, même s'ils sont nouveaux, ils font confiance à la direction du festival, finalement au festival et à sa réputation. Et donc nous n'avons pas de difficultés. Et s'il y a des gens qui ont de craintes, eh bien je profite de cette occasion pour les apaiser et pour dire que nous allons gérer ça en toute transparence.
Et avez-vous un message aux détracteurs sur les réseaux sociaux, par-ci par-là, on voit des messages contre les festivals. Qui répondez-vous?
Il y a certaines personnes qui nous disent pourquoi festival à Manille alors que la guerre continue, alors que d'autres disent quoi de plus courageux que de faire un festival de paix en situation difficile, par exemple. Et donc, vous avez les deux sons de cloche. Et ce qu'on aime écouter parfois à ceux qui nous formulent des critiques, c'est des recommandations précises. Qu'est-ce qu'ils nous aimeraient voir faire? Et on les écoute, on est attentif. Par exemple, comment est-ce qu'on peut contribuer à être une voix de plaidoyer pour plus de paix, plus d'engagement au niveau régional et international? Par exemple, si quelqu'un nous donne une idée, on va l'analyser, on va le faire.
Vianney Bissimoi, je rappelle que vous êtes l'un des responsables du festival Amani de Goma. Merci.
Merci à vous, madame.
Le responsable de la commission des relations stratégiques du festival Amani, Vianney Bissimoi, était interrogé par Rosalie Zawadi. Et c'est par ici que prend fin ce journal, coordonné et supervisé par Pele Kipelamondo et mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengonsoalo. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci et bonne suite de la matinale avec Jules Ngala.